Donc bonjour à tous. Nous avons écrit la présentation en anglais, mais nous allons la dire en français. Et Pierre-Marco la dire en italien et je vous traduirai phrase après phrase, essayant de respecter sa pensée en français. Donc là, cette présentation, elle traite des serious games dont la cible est le patient ou la population générale. Donc on va parler de éducation, santé, serious game. Premièrement, de quoi parlons-nous quand on parle d'éducation, santé? Deuxièmement, dans quelle mesure le game design peut avoir un intérêt pour transmettre des connaissances et des compétences dans ce domaine? Et puis, on essaiera dans un troisième temps de vous donner des exemples de jeux qui existent et puis de partager un peu le ressenti qu'on en a et d'ouvrir la discussion là-dessus. Alors, première chose, de quoi parlons-nous? Alain de Cache a proposé une classification, l'éducation à la santé, l'éducation du patient à sa maladie et l'éducation thérapeutique. Donc on va parler déjà de l'éducation à la santé. L'éducation à la santé, elle intervient en amont de la pathologie. La cible est la population générale. Elle a pour but de donner une culture générale sanitaire et de santé à la population pour qu'ils soient en mesure d'optimiser leur comportement s'ils le souhaitent. Alors, elle utilise des stratégies quand même qui sont de l'ordre des stratégies de communication. Dans un premier temps, pour pouvoir faire en sorte que le message soit reçu, il faut que la population elle soit sensibilisée à la problématique. Sinon, essayer d'éduquer ou de faire passer un message à des personnes qui n'ont pas ressenti le besoin ni qui ne pensent pas qu'il y ait du sens à recevoir ce message, c'est peine perdue. Dans un premier temps, donc, sensibiliser la population. Dans un deuxième temps, faire émerger de l'information. Et alors, après, les gens sont dans une dynamique d'intérêt et dans une dynamique de questionnement. Là, l'éducation, elle a un sens pour eux. Et là, on va être pertinent, on va avoir de l'impact en termes de transmission de messages. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on fait, c'est ce qu'on a vu hier avec la présentation de Brice, c'est-à-dire que les gens, ce n'est pas parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un problème. Ils ont bien compris qu'il y avait des alternatives au comportement qu'ils ont habituellement, qu'ils ont envie de changer. Pour que les gens ils aient envie de changer, faut qu'ils y aient un intérêt personnel. Soit parce qu'ils sont en accord en termes de valeurs avec le message qu'on leur prodigue, soit parce que ça leur propose, ça leur apporte un avantage, soit en termes de sécurité, soit en termes ne serait-ce que de qualité de vie, de minimisation d'embêtements qui pourraient venir. Donc les gens, faut qu'ils aient bien identifié le problème, qu'ils aient compris qu'il y avait une alternative comportementale, qu'ils y voient un intérêt, et à ce moment-là, on tire le levier de la motivation interne, qui est le levier le plus puissant pour le changement de comportement. Et là, on peut espérer avoir un changement de comportement de la communauté. Alors, l'éducation à la santé, ça concerne quoi? Les habitudes de vie, l'alcool, le tabac, l'hygiène, se laver les mains, les règles de sécurité dans certains métiers, l'éducation sexuelle, etc. Dans un deuxième temps, il existe là l'éducation du patient à sa maladie. C'est-à-dire que là, la cible, ce n'est pas la population générale. La cible, c'est un patient qui a un diagnostic positif pour une pathologie et à qui on va expliquer sa pathologie pour qu'il essaye de se l'approprier, pour qu'il essaye de l'intégrer dans son identité, pour qu'il essaye de vivre avec. Alors, on va avec l'éducation à la maladie, parler des causes de la maladie, la physiopathologie, les facteurs de risque, et puis expliquer éventuellement si c'est une pathologie qui peut présenter des décompensations aiguës, comme le diabète. Qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie? Qu'est-ce que c'est l'hyperglycémie? Si les gens ne sont pas au courant de ça, ils vont vivre de façon violente leur pathologie. Et donc, ça n'est pas souhaitable. L'éducation à la maladie concerne aussi la famille du patient lui-même pour pouvoir accompagner, dépister les symptômes, être des personnes ressources en cas de nécessité pour le patient. Alors, évidemment, tout ça est un continuum. Hein. On fait évidemment des sectorisations pour que le message soit bien clair et pour vous identifier bien les cibles. Mais non, tout ça est un continuum parce que dans l'éducation thérapeutique, évidemment, il y a l'éducation du patient à sa maladie. C'est indépendant de l'éducation thérapeutique. Seulement l'éducation thérapeutique, elle va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de personnalisation du message pour qu'il ait du sens dans la vie quotidienne du patient. On souhaite, grâce à l'éducation thérapeutique, faire en sorte qu'il soit en capacité de manager, de bien vivre avec, d'être dans l'autogestion de leur pathologie, des traitements, et de faire en sorte que cette pathologie n'interfère pas ni avec ses objectifs de vie, ni avec sa qualité de vie sociale, faire en sorte qu'il puisse naviguer avec sa pathologie. Donc il a besoin de comprendre un certain nombre de choses, et aussi d'être dans une dynamique introspective. L'éducation thérapeutique, c'est aussi faire en sorte de nourrir la relation médecin-patient, et de bien lui faire comprendre que le médecin est une personne ressource. On essaye de le rendre vraiment acteur de sa propre pathologie. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est un petit peu plus compliqué que de la simple transmission de connaissances de qu'est-ce que c'est ma maladie, comment elle fonctionne et éventuellement quels peuvent en être les symptômes. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On essaye de travailler dans 5 dimensions les acquisitions avec les patients. Donc une acquisition cognitive qu'on vient de nommer, c'est tout ce qui est de la compréhension des mécanismes, etc. Une dimension métacognitive, c'est-à-dire qu'il est en capacité de prendre du recul par rapport à sa pathologie, de voir le chemin qu'il a parcouru, l'expérience qu'il a, qu'il est capable de s'adosser sur l'expérience qu'il a pour pouvoir être créatif dans ses difficultés à venir, s'appuyer sur son vécu. Donc il faut, mais ça c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que sinon les gens ils peuvent être en difficulté et reproduire des erreurs, alors que si on débriefe bien les erreurs qui ont été commises, eh bien c'est de l'expérience et donc ça minimise le risque d'erreur à venir. Il y a évidemment toutes les dimensions infracognitives, parce que quand on arrive dans une pathologie, particulièrement une pathologie chronique, il y a des représentants de l'adaptation de la maladie, avec des conceptions inconscientes. Quand on est dans une pathologie où il peut y avoir des antécédents dans la famille, évidemment le vécu des cas dans la famille influe sur notre propre conception de la maladie, en bien ou en mal. Donc ça, c'est très important de savoir un peu quelles sont les représentations. Et donc, il faut questionner le patient pour savoir un peu où il en est et où est peut-être ses difficultés. Il y a toute la dimension affective. Essayer de faire en sorte que le patient il fasse du lien avec ses sentiments, avec ses angoisses ou avec sa fierté. L'éducation thérapeutique, c'est aussi faire en sorte que les réussites, ça soit pas sur des critères biomédicaux. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait une hypoglycémie majeure et que vous avez terminé à l'hôpital que c'est un échec cuisant. Qu'en avez-vous appris? Où en êtes-vous? Qu'avez-vous vécu de ça? Est-ce que vous referiez la même chose si on rembobinait le film? Est-ce que vous seriez le même? Qu'avez-vous ressenti, etc. Bien faire en sorte que les gens acquièrent ça et l'incarnent. Et toute la dimension perceptive, c'est-à-dire que les patients, il faut leur apprendre aussi à écouter leur corps. On peut dire, voilà, l'hypoglycémie, alors on a des sueurs, on est tout blanc, etc. Les patients, ils vous disent des fois, non, pas du tout. Moi, je vois des mouches noires sur le côté et je sais que je suis en hypoglycémie. Bon, eh bien, acceptons-le, très bien. Alors, à ce moment-là, valorisons le fait qu'ils ont leur propre expérience de patient, qu'elle a un sens pour eux, que nous, on ne sait pas, on n'est pas dans leur corps, et que cette dimension perceptive, c'est aussi de l'acquisition, c'est aussi des choses dont ils doivent faire usage, c'est important pour eux. Et puis, tout ça, toute cette dynamique éducative, c'est pour arriver à des compétences, parce que gérer une maladie chronique au long cours, ça nécessite beaucoup de compétences, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Il faut comprendre et être en capacité d'adapter pour minimiser les événements aigus. Il faut identifier, analyser, mesurer, se servir des devices pour le quantified self, les automesures, faire en sorte de savoir critiquer le résultat et en faire quelque chose. Est-ce qu'on est dans une conduite adaptative si le résultat n'est pas bon? Et puis affronter, des fois on ne sait pas quoi faire et va quand même falloir le faire. Donc c'est une compétence de savoir improviser, justement, de faire appel là à toute cette expérience patient pour affronter le futur, résoudre des problèmes, adapter, etc. Et puis aussi savoir se servir du système de santé. Quelles sont les personnes ressources? Quand est-ce que je peux avoir besoin de telle personne? Les problématiques sociales, etc. Dans quelle mesure je peux m'appuyer sur ça? Donc c'est quand même l'éducation thérapeutique. On a besoin de savoir où le patient est, quels sont ses besoins dans sa vie, quels sont ses objectifs. Et le soignant, alors, propose, un peu sur mesure, hein, on est dans la personnalisation du soin, là, une réponse à ça, des propositions de réponse pour faire en sorte que le patient reste dans une démarche éducative et acquiert des compétences.
Thank you very much for having invited me. I am Pier Marco Rosa. I will speak in Italian and Aurora is very kind because she translates in French for all of you. Okay, I am professor of video game design in Genova, in Italy, University of Genova. I teach at the last year of electronical faculty. I teach video game design. And so I will speak about che cosa il game design può fare per l'educazione terapeutica.
Alors aujourd'hui, je vais parler du game design et qu'est-ce que le game design peut faire dans l'éducation thérapeutique.
Il punto da mettere in evidenza, per cominciare, è che non ci interessa in realtà soltanto trasmettere la conoscenza corretta, ma soprattutto trasferire quella che è la giusta attitudine e il giusto comportamento in modo tale da fare interiorizzare alla persona la competenza sull'educazione terapeutica.
Donc la problématique du game design, c'est qu'il ne le but de la manœuvre, ça n'est pas que de transmettre de la connaissance, mais aussi transmettre l'attitude juste, le juste comportement pour pouvoir faire en sorte que les patients incarnent ces compétences.
E quindi l'obiettivo è cercare di creare confidence, quindi sicurezza su quello che è il soggetto dell'educazione.
Et surtout, essayer de faire en sorte qu'il trouve de la confidence, vous comprenez ? De la confiance ? De l'assurance. Merci. De l'assurance dans leurs acquis grâce à des supports éducatifs de telle sorte.
Et la domanda che noi ci poniamo è come fa una persona a riuscire a sentirsi sicura, a ottenere confidence su un particolare soggetto.
Et la question qu'on se pose, c'est comment les personnes peuvent arriver à ressentir de l'assurance, de la confiance en eux à propos de ces sujets.
Quindi la prima domanda che ci facciamo è la sicurezza è qualcosa con cui si nasce oppure qualcosa che una volta ottenuta la si mantiene per sempre?
La première question qu'on peut se poser, c'est l'assurance. Est-ce qu'on est avec ou est-ce quelque chose qu'on acquiert avec le temps, avec l'expérience?
La risposta è no, nel senso che la confidenza è qualcosa che va conquistata e che una volta ottenuta va in qualche modo coltivata.
Donc l'opinion de Pier Marco, c'est que l'assurance, ça se construit avec le temps, avec l'expérience qu'on fait.
E per questo motivo, se qualcosa che può essere conquistata, può essere in qualche modo parametrizzata, cioè può essere descritta attraverso tre fondamentali parametri.
Donc la confiance, on peut l'expliquer par trois paramètres importants qui sont déclinés là.
E i parametri sono questi. Il primo è la competenza, quindi competence is confidence, quindi è la conoscenza del soggetto. Se io voglio sentirmi sicuro su un qualcosa, devo conoscere di che cosa sto parlando, qual è il campo del soggetto.
Bon, pour se sentir assuré, réassuré et en confiance, il faut déjà que je me sente compétent.
Il secondo campo è l'esperienza, la pratica. Chiaramente se io conosco qualcosa ma non l'ho mai sperimentata, sono un grande teorico, ma a livello pratico non so fare nulla.
Le deuxième pan de ça, c'est que il faut aussi pratiquer. Sinon, on n'a qu'une connaissance théorique et on n'a pas incarné ce savoir, donc la pratique manque.
Chiaramente la pratica deve essere guidata dalla conoscenza, perché non è la pratica che rende perfetti, ma è la buona pratica che rende perfetti. Quindi è fondamentale che sia comunque guidata dalla competenza.
La pratique doit être guidée par la compétence. Parce que sinon, on pratique sans but et sans la compétence doit être la pratique doit être guidée par la compétence et par la connaissance pour qu'elle ait un sens et qu'on arrive à faire de l'acquisition avec.
Ok, ma ancora non basta perché la cosa importante è l'attitudine del soggetto e questa attitudine deve essere un'attitudine proattiva.
Surtout, c'est important aussi que l'apprenant soit dans une dynamique proactive et dans cette dynamique éducative.
Ok, ieri per esempio nel videogioco che ha presentato, quello Hammer and Planks che è stato presentato, veniva bene fuori l'aspetto della motivazione, no? Quindi il terzo punto riguarda proprio quel tipo di situazione, l'atteggiamento emotivo. Io posso essere molto preparato, posso avere fatto esperienza, ma se non ho il corretto atteggiamento emotivo, non ho la giusta motivazione, non mi sento confident, non posso arrivare a interiorizzare il soggetto dell'educazione.
Et par ailleurs, il existe une dimension émotionnelle, c'est-à-dire que je peux être compétent, je peux avoir des compétences, je peux les avoir pratiquées. Si je ne suis pas dans une dynamique émotionnelle favorable, eh bien, je suis en difficulté pour être dans l'assurance.
Di Hammer and Planck non l'hai detto.
No, vabbè, fai le frasi troppo lontane.
Va bene in evidenza il fatto della motivazione, però.
Tout l'aspect de motivation qui est important aussi pour faire de l'expérience et avoir réassuré.
Ok, quindi cosa riusciamo a fare noi con i Serious Game? Innanzitutto riusciamo a trasmettere competenza in maniera divertente, e questo è il primo punto.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec les serious games? Dans un premier temps, déjà, on peut transmettre des compétences dans un mode ludique.
Ok. Poi, per quanto riguarda la pratica, riusciamo a far fare esperienza in maniera virtuale in un ambiente che comunque è un ambiente controllato, quindi che non presenta pericoli o situazioni che possono danneggiare chi lo sta sperimentando.
Par ailleurs, les serious games permettent une mise en situation où les apprenants peuvent pratiquer dans un univers virtuel et contrôlé sans prendre de risques et donc avoir de l'expérience par rapport à ça.
Vai. Inoltre, l'obiettivo del serious game diventa quello di coinvolgere il giocatore in modo tale da creare un'emozione che poi il giocatore, quindi un'attitudine emotiva, che poi il giocatore mantiene anche dopo l'esperienza di gioco.
Le troisième aspect, c'est qu'on arrive par la mise en situation, par le jeu, à générer de l'émotion chez l'utilisateur, et l'utilisateur, elle reste après la partie.
E questo succede proprio perché nei videogiochi, anche se le esperienze sono virtuali, le emozioni che però vengono provate sono comunque reali.
Et pourquoi? Parce que dans les jeux vidéo, l'expérience certes est virtuelle, mais les sentiments, eux, sont réels.
E quindi, come diceva Ralph Koster, autore di un libro molto famoso che si chiama Fun qualcosa, diceva che con i giochi quello che spinge a essere coinvolti, la droga del videogioco, è proprio imparare.
E come lo diceva Ralph Koster nel suo libro Theory of Fun, avec le jeu, c'est l'apprentissage qui devient une drogue. E qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre quelque chose, alors.
Quindi che cosa significa imparare? Che poi è la cosa che l'essere umano sa fare meglio. Imparare significa non chiaramente memorizzare qualcosa, ma creare dei pattern, degli schemi.
Alors, apprendre quelque chose, c'est pas seulement mémoriser un contenu, c'est aussi créer des schémas.
Ok, quindi l'essere umano è programmato per riuscire a creare degli schemi. Per lui è naturale creare degli schemi, lo facciamo anche quando non ci sforziamo volontariamente di farlo. Questo ci permette di imparare. Creare degli schemi significa decodificare la realtà.
Alors l'être humain fonctionne beaucoup avec des représentations schématiques. Rifai l'ultima frase.
Creare degli schemi significa riuscire a decodificare la realtà.
Ah, ouais. Créer des schémas, c'est pour l'être humain réussir à décoder la réalité.
Okay. Okay. I will speak in English if you want to have. Okay. For example, in this figure, you can see what you can see. Pascal, what do you see in this figure? Okay, three squares, or four if you consider also the. But in reality, there are only one square. Okay, there are only one square that is the blue square, because behind the blue square we have only three figures that our mind complete, forming other square that our eyes cannot see. This is the way in which we create patterns or complete patterns. Another very famous example of this is this logo. This is the most famous logo in the world. I don't know if you ever seen it before. It's the logo of FedEx, that is one of the best courier in the world. In this logo, there is a pattern. Do you see it? Yes, no? Okay, if you see between the E and the X, there is an arrow. Okay, so this arrow means that the courier is very fast, because the idea that wants to transmit this logo is we are the faster in the world. If you give us something, we'll deliver it as fast as possible. Okay? When your eyes, for the first time, see this type of pattern inside the logo, it is from now on, the moment you see this logo, you have to see forever this type of pattern, because we are programmed to see, to watch patterns, to create patterns. The patterns help us to decode reality, and so to learn something from the world in which we live. And games, this is another figure by the book of Ralph Koester. Games are systems built to help us to learn patterns, okay? To try to experiment in a controlled environment, in a virtual environment, to learn patterns, okay? And also, fun is a neurochemical reward to encourage us to keep trying. So we have all the components of confidence, of learning, of the type of learning that we want to transmit to achieve the objective of therapeutic education. We have the competence, we have the virtual practice, and we have the right attitude transmitted by video games. Okay. In fact, as Albert Einstein said, play is the highest form of research. Okay, how can we now describe the system, the game, the video game flow system? One model was proposed in 2001 at the Game Developer Conference by the three authors you see over there, and it's called MDA framework. M is for mechanics, D is for dynamics, and A is for aesthetics. Okay. Mechanics are the game rules, the rules of the game. Dynamics is what happens inside the game once the user apply the game rules. And aesthetics is the emotional response caused into the player by the dynamics of the game. So if you want to identify a flow inside the video game, you can see that the aesthetics is the new input that causes that the player continues playing, using new mechanics, applying new mechanics to dynamics, having new emotional responses, and uses these emotional responses as a new input for the mechanics, and so on. But from the emotional point of view, we can identify also other types of frameworks, like frameworks that can be based on emotions or instincts. So we can describe the video game experience starting from the emotions that the player will feel, okay, when he plays. So we have other examples of framework, like the framework proposed by Dillon in 2010, or another type of more simplified framework that relies on four basic emotions, like fear, and the opposite of fear that is curiosity, like aggressivity, and the opposite that is desire. And this stimulates a challenge inside a player that brings to self-realization. So if we want to identify a flow inside the game from the motivational point of view of the player, that is which that we as game designers and doctors want to achieve in order to transmit therapeutic education, so we want to keep the players motivated, this is the flow to keep. We start from a challenge that brings to an effort for the player, that brings to a reward that causes a gratification inside the player, and the gratification is the new fuel to keep the player using the game and so accepting new challenges. If you have, I don't know if I am clear because my English is not so good, and you are French, so, okay. Even better. Speaking English to, okay. The fundamental parameters of concept design in a successful video game product, having studied or having examined many types of video game, a video game design has to keeping track of five parameters to be sure of creating an experience that can be motivating for the player. The first one is the personalization. So if I make a video game in which every player can personalize his main character or the game environment, the experience will be more motivating for the player. The second parameter is the freedom of action of choice. So I have different ways of performing the same actions in the game. How can I do a thing inside a video game? If I have many choices, the player will feel freedom inside the game, freedom of choice, and this will keep him motivated and involved inside the game. Involvement from the point of the game plot view, or the atmosphere of the game environment, or the identification with the main character, or the game dialogue intensity, for example. So the involvement is the third parameter that creates motivation for the player inside the game. The variety of controls, of gameplay, of interaction. So what can I do inside the game? And the immediacy. So the ease of interaction, the fast understanding of gameplay, and the mastery of game mechanics. This is another aspect that has to be used by game designers to keep the player motivated and inside the game. Now I will pass the microphone to Aurora, that will describe you some examples of therapeutic or health video game to show you her point of view as a doctor of the games.
Alors, on va vous proposer de réfléchir sur trois jeux. Donc, un premier qui a été développé par Ubisoft pour AstraZeneca pour une pathologie qui est la psychose maniaco-dépressive, une pathologie psychiatrique avec des variations de l'humeur importantes et qui nécessite chez le patient qu'il ait un mode de vie assez régulier et qu'il n'oublie pas de prendre ses comprimés, qui sont des thymorégulateurs, là, des régulateurs de l'humeur. Alors, c'est un game design de type Sims, un peu Sims-like, où le joueur peut quand même customiser son avatar au début, soit une femme, soit un homme, on peut l'habiller, etc. Et puis après, il doit vivre une journée, vivre plusieurs jours, dans son appartement, etc. On lui propose plusieurs possibilités, il se déplace, il fait des choix qui influent. Je prends mes médicaments, je prends pas mes médicaments. Je décide de regarder la télé, ou je préfère faire de l'activité physique, etc. Ça influe sur son humeur, la régulation de celle-ci, et donc il peut être exposé s'il n'est pas observant aux conseils qu'on lui a donné par rapport à avoir un mode de vie assez régulier, et bien à des décompensations de l'humeur, qui se signifie avec le personnage, parle, exprime son ressenti, mais aussi il y a une modification du décorum avec des images qui changent, etc. Donc par rapport aux usages de ce jeu, bien que ce soit pensé dans une dynamique d'éducation thérapeutique, il faudrait tester, à mon avis, ce jeu chez des patients qui présentent cette pathologie-là. Je sais pas exactement ce qu'il en ressortirait. Est-ce qu'ils gagneraient en connaissances, en compétences par rapport à leurs propres ressentis? Est-ce qu'ils arriveraient à bénéficier de l'expérience acquise durant le jeu pour l'appliquer durant leur vie? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre bien, en termes d'appréhension de la complexité, des variations de l'humeur, je pense que ça montre bien la pathologie à la famille, à l'entourage du patient par rapport aux contraintes qu'on doit respecter, etc. Je pense qu'avec les patients, ça peut vraiment être un outil intéressant à jouer en petits groupes et faire émerger du discours des contraintes qui sont exposées dans le jeu, parce que comme l'arborescence du scénario, elle est pas infinie. Bon, vite on est contraint, vite on est dans la décompensation aiguë de l'humeur. Ça serait intéressant de voir en petit groupe, quitte à ce que les joueurs critiquent le support, c'est pas grave, ça fait émerger du discours, c'est du travail. Donc je pense que ça peut être intéressant, plus qu'en éducation one-to-one avec un patient, ça peut être intéressant en débriefing pour faire émerger du discours en groupe, ou pour éduquer les aidants, la famille, ou pour que le patient puisse plus facilement communiquer sur sa pathologie avec son environnement social. Plus que de la véritable acquisition en termes d'éducation thérapeutique, à mon avis, mais je suis peut-être dans le faux, faudra évaluer ça avec des patients. Donc voilà, il y a des bilans, on voit un peu si il a eu en humeur triste, en humeur bonne, est-ce qu'il a eu des malus, des bonus, il a choisi de faire des activités, etc. En tout cas, le jeu, il est très bien conçu. C'est par rapport aux usages avec les patients que je réfléchis, c'est plutôt dans l'application. Mais le jeu, il est très bien ficelé. Plutôt dans l'éducation à la santé. Il y a un jeu qui a été fait par Interaction Healthcare pour l'association Asthme Allergie avec le financement d'AstraZeneca pour le repérage des pneus allergènes chez les patients asthmatiques. Donc en fait c'est un point and click. La mécanique de jeu elle est pas extrêmement puissante, mais je trouve que c'est très didactique chez quelqu'un qui est déjà dans une position d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est la différence entre l'éducation à la santé où les gens n'auront pas ressenti de besoin éducatif, ne sont pas dans une demande d'information, ne sont pas dans un besoin d'apprentissage, où là, faut aller les chercher au bon moment, en levant les bons leviers pour que le message ait un sens pour eux, pour qu'on génère du changement. Quand les gens ils sont dans une dynamique d'apprentissage, parce qu'ils font des décompensations respiratoires, parce qu'en ce moment, c'est la saison des pneus allergènes, et qu'ils sont en difficulté, et qu'ils ont besoin d'apprendre où sont les pneus allergènes, bon, il n'y a pas forcément besoin, peut-être, en termes de game design, d'en faire des caisses. On peut être dans une transmission comme ça, un peu interactive, de « bah oui, tu as bien repéré, super, t'as un super score, etc. » Moi, je trouve que ça peut être efficace, même si les vrais game designers, bon, ils trouvent que c'est pas extrêmement puissant d'un point de vue ludique. Moi, je trouve qu'en termes d'usage, ça peut vraiment être intéressant en termes de transmission d'informations. Après, on va parler pour l'éducation à la santé d'un jeu qui a gagné un prix de game design aux États-Unis, qui a été designé par une femme qui s'appelle Kao Abe, pour une association à but non lucratif d'éducation sexuelle pour les adolescents. Et ce jeu, moi, je trouve qu'il est extrêmement malin d'un point de vue game design, parce que c'est un sujet qui est pas facile à aborder, qui est nécessaire à aborder chez les adolescents. C'est tout ce qui est les stratégies de protection contre les maladies vénériennes au cours d'un rapport sexuel. Donc, alors, le but du jeu, c'est d'associer plusieurs parties de corps qui peuvent être utilisées lors de rapports sexuels et d'utiliser au milieu la barrière de protection qui convient par rapport à l'acte proposé. Alors, moi, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue game design parce que c'est simple. Il n'y a pas de ségrégation entre homosexualité, hétérosexualité. On se dédouane quand même pas mal des problématiques culturelles, alors que c'est quand même ça peut être un écueil. Il faut faire un effort cognitif pour rentrer dans la charte graphique, se l'approprier. Elle est ludique, elle est légère. Moi, je trouve que c'est très bien vu. Et puis, avec ce jeu, on est vraiment dans le scénario ludique, il est complètement mêlé au scénario pédagogique. On joue avec ce qu'on apprend et on l'intègre. Et c'est quand même un beau challenge. Moi, je vous invite à le télécharger pour jouer. En plus, les usages, ils peuvent être vraiment faits à l'école, là, dans les sessions 4e, 3e, où les enseignants ils sont bien embêtés d'aborder ces questions-là parce qu'ils ne sont pas du tout préparés. Ça peut être utilisé, proposé par le médecin, soit le médecin généraliste, soit le gynécologue, pour après jouer à la maison, pour intégrer toutes ces données-là. Moi, je trouve qu'il est très malin et très bien fait, ce jeu.
E forse non è un caso, se vuoi tradurlo in francese, che sia stato progettato proprio da una donna un gioco del genere, perché si dice spesso che le donne sono un po' al di fuori del campo di progettazione dei videogiochi e probabilmente riescono a dare anche delle prospettive di game design molto fresche rispetto a quelli che sono i generi di giochi che spesso si vedono e si continuano a vedere.
C'est vrai que le fait que ça a été game designé par une femme, c'est vrai qu'il y a peu de game designer femmes en fait, et donc c'est vrai que ce game design il est frais. On n'est pas dans un schéma de game design Sims-like ou voilà, avec quelque chose où on essaye d'intégrer du contenu dans un game design existant. Le game design dans ce jeu, et c'est pour ça qu'il est à mon avis extrêmement efficace, c'est parce que le game design est au service de la transmission de l'information, bien adapté à la cible, et c'est pour ça que ça marche, quoi. Donc voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Donc c'est une question pour Monsieur Rosa. Rosa. The question is about the fact that you announced that it's very, well, for a serious game, it's possible to transmit competences. In fact, I'm not sure that it's very easy to prove it. So how can you say it as a good point for using serious games? Then
succeeding in transmitting competence is the aim, okay, of a game that is not only fun, and this is why it's called serious. Okay, we want the player to be amused, but we want also that the player learn something. This is why the point is learning. And as I said, to learn, we don't want only to transmit the knowledge, but to interiorize the knowledge itself. So it's not only a point of transmitting competence, but to make the competence a part of the user. If the user feels that the competence is a part of him, I am sure that I have transmitted something that will remain inside the user forever. And to achieve this, I want to transmit knowledge, I want to keep the players practice this knowledge first inside the game and maybe also outside, but first inside the game in a virtual and controlled environment. And I want also that the user feels motivation. How can I be sure that this is achieved? Is for the in the first way inside the game. I have to design a game that verify that the user is keeping motivated, that the user is using the knowledge that the game is giving to him throughout the levels, the stage, the practice, the virtual practice inside the game. If you think about it, the experience of the gaming in general has evolved very much from this point of view. Because if you think about the first video games in the 80s, they were experiences that the user did alone, mainly alone, in his bedroom. Okay, the console, the computer was in the bedroom of the player. Now the console has moved from the bedroom to the living room. So the way in which we use video games is a more social way. And this permit to let the video game to be a way of communicating himself. Every experience of the player is communicated. When I communicate something, it's because I have something to tell, it's because I have learned something. And I want to share my knowledge, the pattern I learned, with other people to confront them, to discuss about them. So, if I am able, I am able to design a video game that succeed in sharing experience, virtual experience between players, I can be sure that I have transmitted a type of competence, for sure. Because the player feels the need, feels the urge to communicate his experience. And this is a way to transmitting competence. I hope that this is the right competence, and this is the responsibility, of course, of the game designer, but for sure is competence. What do you think about it?
Yes. In fact, the question is that the competences that you tell about is around skill play. That is, you are very good for playing, but the question is that if you have to use the competences in the real life, how to do that? For instance, you have health games with patients that used to play and they are very good at with the game, but they are not able to use the competences in the real life. So the question is, how can we say that competences can go through the game, from the game to the real life? That is the question.
This depends, of course, from the game.
Yes, and
because first I was saying in Italian that, for example, the game that we have seen yesterday, Hammer and Planks, is a game about motivations, for example, no? So it uses a metaphorical environment, but the patients, the user, the player, develops motivations. Of course, it's a game about rehabilitation, so it's a particular subject. But if I, for example, in Beeple Life, okay, in Beeple Life I used a virtual environment, we have seen it. It's not a realistic environment, and the aim of this game is to learn something, develop competence about the right rules, the right ways in which a bipolar patient has to behave. Okay. So, watching, which is the result in which my virtual avatar develop his state of mind, his feels, and you can see it from the icons in the right low corner of the screen. Depending on the actions that I make with my avatar, so if my avatar practices, for example, sport exercises instead of or other things, and I watch the consequences inside the game, I not only become good inside the game, but I can understand which type of effect is bounded from a type of behavior to a type of feeling inside. And this can be helpful to understand and to develop a first stage of competence about the subject of bipolar disease, I think. So it depends mainly on the game. It's clear that if the game is only about skills in the game, there will be more effort required to player to, abstract the subject to the game and to bring it inside reality. That it's not a bad thing for definition. It could be also a good thing, because if I make efforts, I will achieve a more strong result. But I want to be sure, as a video game designer, that I am transmitting the right knowledge. So it depends from the type of game and from the way I develop it. It's the responsibility of the game designer. And this is why I think that the best result is achieved when a game designer is in strong contact with an expert of the field in which he has to transmit knowledge. This is why I've made this presentation with her, and not alone, and also from her point of view. I think that this is the best way to look at serious games, not only as games in a fun way, not only as serious in a learning way, but with a strict compenetration.
So, is it possible to make sort of relationship between all those feelings and the purpose of a game, the main purpose, therapeutic or educating?
Okay, I showed these two examples to show that we can start building a game, mm-hmm. We can start building, designing a game from the emotions that we want the player to feel. Not the aim of the game in terms of knowledge or of competence, but beginning from the emotions. Because, as I said before, experience are virtual inside the video game, but emotions are real. So if I start from the emotion, I can have many different ways of looking at the development, at the design of a video game. This is one possible point of view from the emotions. So I want the player to be involved, to feel motivated when he plays, because if he feels motivated, he will take the knowledge, the competence, and make personal. Okay? And this is the best way to retain something when the player is playing. So, which type in this particular slide of emotions I am considering are the basic type. I am starting from the basic aims of every human being, that is survival and reproduction. Okay, this is the basic aims. We are programmed to survive, and we are programmed to reproduce ourselves. This is why we are in the planet by now. Yeah. So, how can we satisfy these primal needs? If I start from this type of four, for example, because we can choose other types of emotions, but if I start by from this type of emotion that are fear that can be also can lead to escape or revulsion, or curiosity that is the opposite, that lead to exploration, or aggressivity that leads to fight is a challenge for every player, or desire that leads to love, to possession, to collecting something inside the game. I am considering the point of view of stimulating this type of basic emotions that every human beings possess inside the game, for example, inside people life, if you want to make mm-hmm. to see at that example we were talking before, collecting something, fighting with my difficulties. This is why, if I consider this point of view when I design a video game, I could bring a player to feel motivated to accept the challenges that the video game proposes to him. Because if I don't keep the player motivated, my objective is not reached.
And
I love this type of dialogue because it's very stimulating.
Yes, I would like to add something because yesterday Michael Stora told us about a sort of transformation or not of feelings when the player is a patient. So what about those primary needs? When there is the disease, are they the same or not? It's a question. Right.
En fait, les arguments là qu'a donné Pierre Marco pour la construction des jeux, c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour designer, mais on va pas tous les prendre pour en mélanger parce qu'on va arriver à rien. Mais par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la curiosité, etc., on va gimmick designer avec des jeux de quête où on va faire en sorte. Alors, première question. Là, quand on, j'ai compris la deuxième
question.
Patient
diabétique, enfant, adulte. Voilà.
Ouais.
Si tu veux là.
Ouais. Mais nous, on a fait des jeux de quête pour les enfants assez joyeux, assez cartoon, avec des interfaces repas très claires pour qu'on soit très didactique. Mm-hmm. Donc la mise en situation émotionnelle, elle est plutôt dans la joie, dans j'arrive à faire. Le ressenti, c'est plutôt valorisé de façon absolue, quoi. Il n'y a pas de mise en danger, on n'est pas dans des problématiques angoissantes, etc. Ça, c'est le premier jeu qu'on a fait, qui s'appelle l'affaire Birman. Le deuxième jeu qu'on a fait pour des populations plus adolescentes, etc. Il y avait aussi, parce qu'on avait des contraintes techniques d'un simulateur glycémique dont on avait hérité des équations, donc en fait il y avait des dynamiques en termes de conception de jeu où le simulateur glycémique il fait varier la glycémie en fonction des actions du joueur de façon réelle avec un modèle validé scientifiquement. Bon, donc en fait la dynamique du temps a été très présente de toute façon dans la conception du jeu et on a orienté le game design vraiment dans une certaine atmosphère un peu pesante et angoissante de le temps qui passe. Donc en fait pour aller sur l'interface de la manipulation des outils, c'était une horloge, la musique était aussi un peu lancinante, la charte graphique, elle était assez sombre, cosy mais sombre. Bon voilà, tout ça, ça crée une atmosphère. Là, on est dans de l'infracognitif, quoi. C'est-à-dire que on parle à des adolescents qui sont tourmentés, probablement une population plus masculine. Il y a la problématique du temps qui est présente. On est quand même dans la manipulation de concepts éducatifs, mais clairement, l'implication émotionnelle, il y a des gens qui ne supportent pas de jouer à ce jeu. C'est trop angoissant. Voilà. Alors que l'autre, plus joyeux. Bon, il y en a. Mais par contre, la population adulte va être dans un certain rejet. Genre, je ne suis pas concernée parce que la charte graphique et cette espèce de youpi, je vais y arriver, ne me concerne pas parce qu'ils sont dans une autre dynamique personnelle.
Ouais, est-ce que alors, je comment prendre en compte tout ça alors?
Ah il faut connaître la cible parfaitement. Probablement co-construire les outils avec les patients, faire en sorte de servir par le game design les objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. Ensuite, la question, c'est quand on parle à des patients dans une démarche d'éducation thérapeutique, est-ce que ça a un sens de faire du all-inclusive serious game? Moi, à mon avis, non. Parce que, ou alors quoi en faire? Est-ce qu'on peut faire du all-inclusive? Moi, à mon avis, non. Voilà, essayez. Bon, j'essaye, mais je critique ce que je fais. Voilà, c'est compliqué et, et c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que, là, on parle de l'insulinothérapie fonctionnelle chez des gens quand même relativement jeunes, mais on n'est pas complètement dans la même tranche d'âge. On n'aborde pas les choses différemment. On aborde les choses différemment avec des chartes graphiques complètement différentes, des leviers motivationnels différents. Simplement parce qu'on a passé 5 ans et qu'on sait que les gens ils sont pas dans la même problématique. Voilà, c'est de dire on va faire le game design pour l'éducation thérapeutique, c'est clair et net. Enfin, moi, à mon avis, ça peut pas marcher. Hein.
Alors, Julien, Nabil et David.
Alors, une question pour Aurore. En fait, on a beaucoup parlé de l'objet, du game design, de l'objet, etc. Mais qu'en est-il de l'écosystème dans lequel on introduit le serious game? C'est-à-dire, par exemple, pour faire de l'éducation thérapeutique, je suis allé voir l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, donc qui ont utilisé par exemple l'affaire Birman, et ils m'ont dit... Oui, on a mis les enfants devant l'ordinateur, et puis bon, je sais pas si ça marche, etc.
Donc ça, c'était. Ils ont participé au protocole.
Voilà, c'est-à-dire que, en fait, la question, c'est de savoir, parce que je sais que tu es une fervente défends beaucoup les aspects accompagnement. Ouais. Donc il y a les aspects accompagnement. Je suppose qu'il faut peut-être préparer autour du serious game.
Bah, je pense que quand on fait, à partir du moment où on décide de faire de l'éducation thérapeutique. Alors ça veut dire que le diagnostic il est posé, le patient il est dans une démarche de soins, il est en général accompagné par un soignant. Et ben la cible dans la conception elle est double, c'est-à-dire que le soignant, si on l'élude, il va pas s'approprier le support, il va dire bah vas-y va voir. Et du coup le sens, l'implication de l'apprenant avec le serious game, il est faible. Parce que le patient il est perdu. Hein. Mais pourquoi on me demande d'aller faire ça? Quel sens ça a pour moi? Pourquoi il me le présente comme ça le soignant? Quel sens ça a pour lui? Est-ce que lui j'ai l'impression qu'il a compris quel était le jeu? Qu'est-ce qu'il attend de moi pour jouer à ça? Et alors après moi je suis censée apprendre quoi avec ça? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur c'est scientifiquement prouvé? Bon bah qu'est-ce que je fais? Bon voilà, si ce cadre-là, il est pas posé par un soignant qui met quand même le patient dans une position d'apprentissage pour dire écoute, voilà, moi on se connaît, je vois où t'en es, j'ai l'impression que là tu es en difficulté peut-être avec ce pan d'acquisition là. Je pense que ça a un sens pour toi d'utiliser cet outil. Il y aura une évaluation derrière. J'aimerais qu'on en parle parce que comme ça permettra de voir un peu les choses dans lesquelles t'es pas à l'aise et on essaiera d'éclaircir ça. Ça change un peu la donne. Ça change même tout parce que de dire le serious game en ETP, il peut être autonome. Alors pour certains petits trucs peut-être, mais il faut que le tutoriel il soit ultra... Ah ouais, le tutoriel, il faut que ça soit le tutoriel intégré au jeu, qui mette la le patient en position d'apprentissage, sinon on fait n'importe quoi. Mais ça, c'est quand même très restreint l'éducation thérapeutique. Moi, je pense qu'il y a quand même tout un pan de prévention où le serious game, il a vraiment un sens dans toutes les campagnes d'éducation santé, où là, on peut vraiment faire des bonnes campagnes de com qui intègrent des serious games, attirer l'attention d'eux, faire en sorte de générer de l'intérêt, puis de l'apprentissage, après que les gens buzzent les uns avec les autres et qu'il y ait éventuellement, si ils trouvent, en termes de motivation interne, qu'il y a un avantage à changer son comportement, qu'ils changent leur comportement. Donc là, c'est facile, c'est pas la même approche, c'est beaucoup plus libre, la cible, elle n'est pas captive, donc il faut aller la chercher, elle n'est pas dans une position d'apprentissage, parce qu'elle ne ressent aucun besoin, donc c'est pas les mêmes leviers éducatifs, mais je pense que là, le serious game, il a vraiment un sens.
I think I like the... I'm trying to try to understand, to grasp a bit. I like the model about the learning dimensions, so we don't forget the cognitive, and then you move to the competencies that among the patient that you should try to address. But I would like your help to make the connection to the next phase when you switch the design of the game. Is there literature or something to actually to make the connection between the learning dimensions, the competencies, and to work on a systematic manner with the design of the game? Because that's very important from a clinician faculty perspective, because I see this as a therapeutic intervention, as any kind of intervention. So to make the jump to the design, it feels like you move this to the professional designers. So how do we it feels like now you're into the hands of another type of discipline, which is very good, but what's the next step, let's say? Keep systematic approach, the learning dimensions, the competencies you try to address among the patient. What's the next systematic approach we can still keep?
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la dernière phrase?
C'est simple. Comment faire en sorte que les cliniciens et les professeurs puissent suivre le processus un peu plus loin, de manière systématique? Comme ça, quel que soit le jeu, on puisse avoir une idée de... Quel est l'apport en design, quel est l'apport dans le jeu? Parce que là, on a une bonne théorie au niveau de ce qu'on apprentissage, une bonne théorie au niveau des compétences qu'on essaie d'adresser.
Après, c'est
et quand
cuisine.
On passe au côté du design du jeu, ça, dans ma perspective, ça explose. Ça devient un genre de un peu personal touch. Voilà. Ouais. Donc c'est ça.
Il faut accepter de on est. Moi, je trouve que voilà, de faire un bon jeu vidéo, faut répondre à des objectifs et négocier des contraintes. Et après, on fait ce qu'on peut, on essaie de voir. Mais y a pas, moi, je pense que le moule extraordinaire, c'est difficile.
Non, je parle pas de moule, mais non, je parle tout simplement, si on voit ça comme une intervention thérapeutique, il faut faire des clinical trials, il faut suivre le processus.
Il faut les faire décliner.
Par exemple, je dirais, on peut se retrouver à être obligé de faire des clinical trials pour prouver l'effectivité,
ben
si c'est
fait.
Un truc effectif.
On le fait.
Et là, on se retrouve dans un domaine scientifique assez structuré.
Ouais, on les valide.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est tout.
Ouais. Non, mais il faut prouver l'impact. On le fait. Mais d'ailleurs, là, quand Julien dit, l'équipe de Jeanne de Flandre, là, qui est l'équipe lilloise, a proposé l'outil, parce qu'en fait, on a fait le tout, mais ma collègue en parlera cet après-midi. On a évalué, notre premier jeu en pédiatrie dans 5 centres français, voilà, qu'on participait. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a utilisé l'outil, et vous allez voir les résultats de l'étude, c'est que probablement, il aurait fallu probablement plus guider les équipes d'éducation thérapeutique pour introduire le jeu, etc. On aura probablement maximisé l'effet. Bon. On apprend en faisant aussi, hein. Et puis faire des études cliniques, voilà, on compte aussi sur la bienveillance des collègues qui sont pas forcément les rois de l'éducation thérapeutique. Bon, alors voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, on est avec les contraintes aussi réelles, hein. Mais en effet, je pense que il faut aussi probablement faire en sorte que les soignants s'approprient ce type d'outils, et ils sont un petit peu en résistance par rapport à ça. Moi, je pense que un des arguments majeurs qui explique cette résistance, c'est qu'ils ont du mal à trouver leur place avec cet outil-là. Donc il faut valoriser la place du soignant avec le service game, parce que il y a que parce qu'il y a le soignant qui dit c'est le bon moment, qui le débrief et qui complète ce qu'on en a tiré, qu'on fait de l'éducation thérapeutique, sinon on ne fait pas d'éducation thérapeutique. Donc le soignant est indispensable dans cette démarche. Et donc il faut le valoriser pour qu'il lui-même trouve un sens à l'utilisation de cet outil avec son patient, à mon avis.
I don't know what Aurora said, but starting from the question that you made, but also linking to the question that made before Julien, the thing is that we are currently developing this point of view. In fact, if you think about the way in which the video game were designed many years before, 20 years before, and this is linking to the question that Julien made me before, no? How can I be sure that the gamer is not only developing a skill for the game, inside the game, and is developing something more? If you think about the way in which the video games were developed at the start of the 80s, that were more focused and centered about the reflexes of the player, okay? I had a challenge on the screen, and if I was fast enough, I was able to accomplish and to win the challenge, okay? To jump at the right time. So, what was mainly tested about the players was the connection between the eye, the vision, and the reflexes, and the ability to react with the interface, using well the interface. But since last years, when the technology have developed in a way that we are able to create something that is not far from virtual worlds, okay? So we can develop a world, an environment that is very complex. Now we can start to think, to rethink of video gaming in terms of experience, in terms of emotions, more than of reflexes challenges. This is why we have to, in my opinion, embrace this point of view, especially if we want that the experience brings something to the player, something that he can retain after the experience of play, that can become something in his life, in his interior life, can something that he can also experiment outside the game, because the emotions that I feel inside the game are emotions inside me, and I can bring these emotions to watch at the world outside the game with different eyes if the game is developed in the right way. To keep, for example, my motivation up, to develop knowledge in a certain way. I don't know if I am clear speaking of this, but I think that this is the point. To change the way in which the video game is designed, centering it on emotions.
A couple of questions. One is just an idea in the form of a question. You mentioned that there's several kinds of people and it was difficult to know how it could, the game could accommodate different types of people. Could you not imagine some kind of questionnaire at the beginning before they start? And then the results of those questionnaires go in and modify the game or produce a certain level or type of game that goes with that type of personality or type of person. And then it's much more adapted to the...
For example, I don't know if you remember a very old video game that, in my opinion, is a masterpiece that was called Alter Ego. It was developed not by a game designer, but by a psychologist of UCLA in Los Angeles. He was called Favaro. It has an Italian surname, like. And that video game was about an alternative life. And it began with a questionnaire about something that is very easy for the player, only true or false. For example, I am a light sleeper. True or false? I will try to respond to this answer honestly or not. Okay. This type of questionnaire helped the designer, that was a psychologist, so mainly a psychologist than a game designer. In fact, the game is mainly textual, also because in early 80s there was not the technology, and it was better from my point of view, considering only this type of interface. To develop a type of starting profile, emotional profile of the player, that will keep updated, also keep tracking of the choices inside made by user inside the game. I recommend to use this game to try to test this game to understand better what I am saying. You can find also a version of this game that was reprogrammed on the web. So if you search for Alter Ego by Joseph Favaro, you can experiment this type of game that is very interesting, because when you make choices inside this game, the game not only consider your choice, but also how this choice is congruent, is coherent with the profile, the emotional profile of that you have developed making previous choices inside the game. And considering this, the choice you make, the attitude with which you make the choice, and also the profile you had before, you have different results. So it is possible, and from a certain point of view, it was made in a wonderful way, in my opinion.
Okay. Second thing is more an opinion. You're basing your game on basic emotions, and in any case, many games, especially if they concerning issues like this, are going to generate emotions. And in my opinion, these emotions need to be debriefed in some way. In other words, you can't just leave people in these emotions, good emotions or bad, or positive or negative. Especially if they're negative. Because people are going to win, they're going to get the wrong idea. And they're not going to want to come back to a game which, or come back to a similar game, if the previous one has generated negative emotions. So in my view, there should be some kind of mechanism where they can share their emotions and begin to realize that they're able to handle them and relate their own experience to the emotions. In other words, begin to learn how to deal with their own emotions. And it doesn't need to be, I don't think, done in a classic way with people sitting in a circle. It can be done online in a forum that's provided especially for the game. And it doesn't need to be synchronous. It can be asynchronous. But some kind of way in which players can share their experience of the game and make sense of it, with some kind of facilitator there also contributing.
And this is why, in the example I made before, I was referring to a game that was designed and realized by a psychologist. It was not... because I think that there is a certain type of responsibility, and it's not superficial, when you decide to involve emotions in a, I don't know how to say now in English, but consapevole. Come si dice consapevole? Eh? In a conscious way. In a conscious way. This is very, very, very important, because if you think about video game at their basic form, they are a bunch of choices, okay? If I want to go to the left or to the right, if I want to take a thing or not. But these choices imply responsibility and can cause emotions. So the main objective of the designer is to keep the player motivated and to transmit competence through emotions, but competence. So I want to develop certain emotions inside the player, but I have the responsibility of which type of emotions, of course, I'm trying to develop. When I showed the previous model, it was to focus on basic emotions that every player can feel and can be motivating for the player, but the way in which I use these emotions inside the game is design and responsibility.
I think towards the end of the game, or certainly during the debriefing, if players can complete it with, I think one of the most important emotions is a sense of achievement, an accomplishment. And if they can come away with that, they will want to go back.
In fact, is when you complete a pattern. When you complete a pattern, when you decode reality or virtual reality, you have completed the pattern, you feel satisfied. And you are ready to pass to another pattern, another more complex pattern.
On va peut-être clore la session. On vous remercie infiniment, Aurore et Pierre Marco. Merci.